Bien, nous sommes ici, Virginie et moi-même. Bonjour Virginie.
Bonjour Jean-François.
Oui, Jean-François. Les représentants des fondeurs de briques, pour vous parler de Max Aube, qui est un écrivain espagnol du XXe siècle. Il est né en 1903 à Paris. Il avait une mère française et un père allemand, ou l'inverse, je ne sais jamais. Et en pleine Première Guerre mondiale, 1913, étant donné qu'en plus ils étaient aussi d'une famille juive communiste, ils se sont sentis un petit peu mal à Paris et ils sont partis vers l'Espagne. Et donc il est devenu, lui il avait une dizaine d'années à ce moment-là, donc il est devenu espagnol, puisque ses parents ont déménagé dans la région de Valence. Il s'est assez tôt lié à toute la génération des écrivains, des poètes, des artistes espagnols des années 20 et 30. Il est venu à Paris assez tôt dans les années 20, hein, Il a rencontré Jouvet, enfin des gens comme ça. Donc c'était un intellectuel, si on veut, qui avait une sorte de double culture de par sa naissance et son attrait pour la culture française et son expérience de la culture espagnole. Et on sait que dans les années 20, l'Espagne était extrêmement riche et active au niveau culturel. Il était socialiste, donc socialiste au sens socialiste de l'Espagne des années 20-30. Il a assez rapidement connu Malraux aussi, donc dans les années 30 à Paris. Il a été nommé en novembre 36 ambassadeur, enfin attaché culturel à l'ambassade d'Espagne à Paris. Hein, novembre 36, sachant que la guerre d'Espagne a commencé au mois de juillet, quoi, quelques mois après donc le début de la guerre. Et en 37, il y avait une expo internationale à Paris, et donc il y avait un pavillon de l'Espagne républicaine dans lequel a été exposé pour la première fois le Guernica de Picasso. Et c'est Max Aube qui connaissait Picasso de ses années espagnoles, qui a fait un peu l'intermédiaire et qui a permis au tableau d'être exposé. Il faisait des allers-retours entre l'Espagne en guerre et la France. Il a participé au tournage en 1938 de L'Espoir, le film de Malraux, qu'il a tourné en partie à Barcelone ou dans la région de Barcelone en Espagne. Et puis, devant l'avancée des troupes franquistes, le film a été terminé en France, pas très loin d'ici, à Villefranche-de-Rouergue, dans le Quercy. Il était mis sous surveillance. Il a été arrêté une première fois vers Marseille dans les années 39. Puis interné à Vernet d'Ariège en 1941, avant d'être envoyé à Djelfa, qui était le camp pour les Rouges, en milieu du désert saharien. Il y a beaucoup de républicains espagnols qui se sont retrouvés déportés là-bas. En 1942, il a réussi à s'échapper et il est parti au Mexique. Donc 1942, il arrive au Mexique et il va mourir au Mexique en 1972. Donc la deuxième partie de sa vie va se passer là-bas. Alors il reviendra en Europe régulièrement, en Espagne de temps en temps, mais c'est encore le franquisme, évidemment, dans ces années-là. Donc ça sera un petit peu compliqué pour lui. Puis en tant qu'exilé, il se sentait un peu différent, évidemment, des gens qui étaient restés sur place pour continuer la lutte ou alors pour intégrer le régime. Ce qu'on peut signaler, c'est qu'il a toujours été très proche des milieux cinématographiques aussi. On parlait de Malraux et de son film L'Espoir tout à l'heure, mais il a participé au scénario de Los Olvidados de Luis Buñuel, qui est un film de 1950 mexicain, à la période mexicaine de Buñuel, qui est l'histoire de ces gamins des rues de Mexico. Donc il n'est pas crédité au générique, mais il a participé au scénario avec Buñuel, qui connaissait évidemment de l'Espagne antérieurement. Et Max Aube a été aussi, je crois, un des directeurs, des scénaristes mexicains ou quelque chose comme ça. Enfin, il a eu un poste dans l'administration. Il s'est très bien intégré, enfin, il s'est relativement bien intégré à la société mexicaine. Un des premiers bouquins que les fondeurs de Bric ont publié en 2007, c'était un recueil de contes qui s'appelle « So Pilote et autres contes mexicains » qui était paru dans les années 50 et quelques en Europe et au Mexique. Mais qui, voilà, sont des contes qu'il a écrits très peu de temps après son arrivée au Mexique. Et on sent bien ces deux registres, quoi, l'Europe et les Amériques. Il y a en particulier une nouvelle, un conte du recueil qui est consacré à une sorte de réinterprétation de la légende de Guillaume Tell, mais dans le contexte du Mexique révolutionnaire, quoi. Voilà, donc on voit bien un peu le mélange, tout ça, entre donc l'Europe et les Amériques. Pour parler plus précisément peut-être de Le Labyrinthe Magique, puisque après, donc en 2007, ce recueil de contes, on s'est attaché à publier les 6 volumes que vous avez là du Labyrinthe Magique à partir de 2009, pendant 3 ans, 2 volumes par an. Les Campos, puisque le cycle porte le titre générique de Labyrinthe Magique, mais en fait chaque volume porte le titre de Campo quelque chose, quoi. Et ce projet des Campos, comme ça, en fait, devait comporter 26 tomes, je crois. Il avait prévu, comme ça, de faire 26 tomes. Il y a ces 6 volumes-là, qui sont donc les Campos, on va dire, fondateurs. Mais les autres tomes qu'il avait prévus dans ce cycle n'ont pas tous été écrits et ne sont pas tous sortis, mais on retrouve des textes qu'il avait prévus dans le cycle, qui sont parus dans d'autres recueils de nouvelles, ou enfin voilà, il a réutilisé des textes qu'il avait prévus de mettre dans ce cycle. Donc les Campos ont été publiés entre 1943 et 1968. Donc, on a dit qu'il était arrivé, enfin qu'il était parti pour le Mexique 42. Hein, donc, tout de suite après, en fait, le premier volume a été rédigé. Enfin, il dit qu'il l'a rédigé sur le bateau. Enfin, qu'il a commencé sur le bateau de. Je crois qu'il est parti du Maroc vers Veracruz au Mexique. Pendant la traversée, il a commencé à écrire le Campo Cerrado, qui est donc le premier volume de ce cycle de 6. Et donc, il a échelonné ce travail, lui a pris donc quasiment 25 ans, puisque le dernier volume a été publié en 68, juste avant sa mort. Enfin, quelques années avant sa mort, en tout cas. Donc, 6 volumes qui... voilà, cet ordre-là n'avait pas été forcément prévu par Max Aube au départ, mais il y a le quatrième volume, qui s'appelle Campo Frances, qui est en fait la fin de l'histoire, et qui est un volume très différent des autres volumes. Donc il a quand même laissé des indications pour comme quoi il fallait mieux le mettre au milieu, même si ça faisait une rupture dans la chronologie, pour quand même avoir cet élément-là à l'esprit. Ce qui est vraiment intéressant dans ce cycle, c'est que chaque volume, en fait, se présente différemment. Bon, déjà en taille, vous voyez qu'ils ne sont pas tous égaux. Même le projet littéraire est assez différent d'un volume à l'autre. Son ambition, si on veut, c'était quand même de faire une sorte de roman choral avec tout un tas de personnages. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas un ou deux ou un groupe de héros. Il y a des personnages qu'on retrouve d'un livre à l'autre, mais sans que ce soit des personnages principaux. Et y en a qu'on aperçoit, et qui sont mentionnés une fois et qu'on retrouve plus jamais. Il y en a qui se baladent dans les volumes. Il y a très peu de personnages historiques au sens les grands personnages historiques, quoi. Si on aperçoit, il y a Durruti évidemment qui est présent quelque part. Il y a Zana, il y a quelques personnages, mais ils sont pas du tout sur le premier plan. Ils sont vraiment plus pour le contexte historique. Qu'on les voit. Son but, c'était de faire une sorte d'écriture de l'histoire de l'Espagne du début des années 30, puisque le premier volume commence au début des années 30, la Deuxième République, et ensuite la guerre d'Espagne, puisque le dernier volume, qui est le quatrième en fait, si vous avez compris, ça se termine en 39-40, après la retirade et le début de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Il y a des études qui ont été faites, et je crois qu'ils ont recensé plus de 5000 personnages dans le cycle, quoi. Donc évidemment, ils ne peuvent pas tous être développés autant. Et à titre d'exemple, je voulais vous faire un petit bout de lecture qui est donc tiré du volume 2. Alors, autant le premier volume est un roman relativement traditionnel dans le sens où c'est un roman d'apprentissage. On suit quand même un personnage principal dans celui-là, une sorte de roman de formation. C'est un gars de la campagne qui va à la petite ville à côté de chez lui et qui finalement va à Valence, puis après à Barcelone. Voilà, c'est une sorte il se forme à la politique, à l'amour, à la société. Et il est assez représentatif du reste du cycle parce que... La plupart des pages sont consacrées à des réflexions, au final, enfin des dialogues entre les personnages et des réflexions sur la politique, la société, l'art, la religion, enfin voilà, tout un tas de grandes thématiques comme ça. Et donc dans le volume 2, on trouve déjà plus cet aspect choral avec donc tout un tas de personnages qu'on évoquait. Donc il y a le contexte, on est... Celui-ci, on est dans la défense de Madrid, donc on est entre juillet et novembre 36. Il y a un groupe de troupes de théâtre arrive dans un théâtre donc qui est fermé, mais enfin il y a quand même un concierge dans ce théâtre et il retrouve le concierge pendu dans les loges ou voilà quelque part dans les coulisses. Et ils discutent un peu, qu'est-ce qu'on va faire de ce concierge pendu quoi, qui nous tombe dessus comme ça. Et donc, le concierge n'est pas vraiment nommé. Je ne pense pas qu'on ait son nom de famille et son prénom. Mais Max Aube, dans son goût immodéré d'inventer des personnages, met une note à la fin d'un dialogue, comme ça. Et dans la note, il dit « Comme ce mort ne réapparaîtra pas, et si cela peut intéresser quelqu'un, je donne ci-après quelques informations sur sa vie ». Bon, quelques informations, ça fait quand même deux pages écrites encore 6-5. Donc, il nous raconte l'histoire de ce type, qui n'est pas nommé, qui est une sorte de bigot, qui suit donc effectivement la messe, tout ça. Et à un moment, il a une histoire d'amour. Max Aube le dit comme ça, il dit le temps s'écoula ainsi jusqu'à ce qu'il fût tenté par Belzébuth, incarné magnifiquement, source de plaisir extrême, par Vincenteta, très proche de son prénom, surtout concernant les deux dernières syllabes de son patronyme, Vincenteta. Les hispanophones apprécieront. Qui semblait venir donc non pas de la famille du paternel, mais des saints maternels. Bon, voilà, il précise. Et donc il parle pendant une page ou deux pages d'un type qu'on ne va pas du tout revoir et qui est juste, enfin, entre guillemets, juste un pendu dans un théâtre, quoi. Et donc ce qui montre un petit peu le goût du jeu et un petit peu de la façon dont sont construits la structure narrative de ces romans. Qui mélange donc une écriture relativement traditionnelle de dialogue. Il y a beaucoup, c'est très dialogué. Max Aube a fait beaucoup de pièces de théâtre aussi. Il est très connu en Espagne pour ça. Mais il y a aussi des passages plus expérimentaux, hein, on va dire, où il fait comme, je ne sais plus si j'ai gardé la page sous le, mais dans voilà, il nous fait participer en quelque sorte à l'élaboration de son texte, de son roman. Il nous donne un peu les coulisses quoi, de ce que c'est qu'être un écrivain. Il raconte pas simplement l'histoire de ses personnages, mais il y a tout cet aspect de travail à la table de l'écrivain, à tel point que dans le dernier volume, le 6, il y a au bout de... Enfin, le volume est assez imposant, comme vous le voyez, il doit faire près de 700 pages, à peu près vers la moitié ou vers 350-400 pages. L'histoire se termine, mais en fait, Max Aube veut tellement pas lâcher ses personnages, il veut continuer. Il y a toute une partie qu'ils appellent les pages bleues, qui recommande d'ailleurs d'imprimer sur un papier différent pour qu'elle se démarque des autres, quoi. Où on est complètement dans le laboratoire de l'écrivain en disant, enfin voilà, il est en pleine réflexion sur qu'est-ce que je vais faire de mes personnages en une certaine façon, Hein, parce que vous l'aurez compris, lui a participé à l'histoire, il la raconte de son point de vue, mais en inventant tout, quoi. Il y a une citation que j'aime bien, il a fait un bouquin aussi, un très très gros bouquin autour de Buñuel, donc qu'il a connu, on l'a dit, en Espagne, au Mexique, etc. Et dans un livre qui s'appelle Buñuel Roman, quand même, c'est un roman, il le désigne ainsi. Et dans ce livre-là, on trouve une citation qui dit « Ce livre est un plagiat de l'histoire comme la virent certains et de la vie comme la vécurent la plupart. Si je l'ai souhaité roman, c'est pour malgré tout être le plus près possible de la vérité. » Voilà, donc il utilise le ressort romanesque à l'aide de plein de techniques différentes donc qu'on a mentionnées, hein, puisqu'il y a de la poésie, il y a des chansons, il y a tout un tas, c'est enrichi de tout un tas de textes différents. Mais pour au final être le plus près, ce qu'il considère de la vérité. Alors, on a prévu une petite lecture à deux voix. Je vais juste vous lire, il y a deux extraits que j'aime bien, toujours dans le volume 2. Moi, j'ai lu les autres aussi, hein, mais... mais j'aime bien celui-là. Et la thématique, c'est le travail. Alors, il y en a un qui dit, donc, c'est un dialogue. Hein. Enfin, c'est un dialogue, mais il n'y a qu'une personne qui parle dans cet extrait que j'ai choisi. Il dit, je ne suis pas d'accord. Moi, ce qui me gêne, c'est de devoir travailler pour vivre. Et je parle sérieusement. Pourquoi l'homme ne peut-il utiliser son intelligence pour faire exclusivement ce qui lui passe par la tête? Tu as conscience de cette énormité que le travail a réussi à créer, cette superstructure, cette carapace à transformer le monde en une énorme tortue qui ne respire qu'à travers sa toute petite tête, un trou toujours occupé par les millionnaires ou les millénaires, ce qui revient au même, tandis que nous asphyxions. Le travail a abêti et abêtira de plus en plus l'homme, car ce qui jadis était un moyen est devenu une fin. L'homme ne vit que pour travailler. Il pense à son travail, dort avec son travail, a des enfants avec son travail. On travaille pour manger, dit-on. On travaille pour tout. On travaille pour s'amuser. On travaille pour mourir. Les gens adorent le travail. Où travailles-tu maintenant? Que fais-tu? Personne ne répond. Rien. L'homme est un animal qui travaille et qui fait travailler les autres. À chacun, selon son travail. C'est avec ce genre d'absurdité que se construit le monde. Ça, c'est une des réflexions parmi tant d'autres qu'on trouve dans le livre. Et pour compléter ça un peu plus loin, donc c'est une autre... un autre dialogue comme ça. Donc ils se séparèrent en arrivant au Neptuno. Fajardo aborda un camion qui se dirigeait vers la Sierra. Et là, il discours. Le nouveau concept du travail, c'est le travail socialiste. Le travail avec une finalité, le travail pour tous, le travail pour améliorer la vie future. Baliverne, me tuer à travailler pour que mes arrières, petits-enfants, ces flemmards, ne travaillent pas, la belle affaire. Rien ne presse, j'en sais quelque chose. Et nous allons le distribuer de façon plus équitable. Sans compter que travailler comme un âne, dans l'espoir d'assurer l'avenir, est la conception la plus bourgeoise qu'on en puisse avoir. Tes grands-parents, ainsi que les miens, j'en ai eu comme tout le monde, forcément, même si je ne sais pas qui ils étaient, avaient ce même genre d'idée. Ils étaient commerçants. Ils ouvraient leur boutique à 7h du matin et la fermaient à 10h du soir. C'était du stacanovisme, compagnon, même si cela te fait te crever de rage. À quoi me sert ce genre de vie ? Criait Amorine pour couvrir le bruit du moteur. Ils sont dans le camion. Il était portugais, petit et mince. On le surnommait à mauvais escient Barbichette. Après quelques secondes, il reprit de sa voix aiguë et pointue. Pourquoi voudrais-je d'une telle vie ? Nous sommes bien d'accord. Demain, à l'usine, au lieu de travailler pour Monsieur Verumundo Casas y Casas, je vais travailler pour l'État, avec une majuscule, et dire pour moi-même, avec une minuscule. Ça y est ? Et alors, vous ne vous rendez pas compte que les idéalistes, c'est vous et pas moi. Ce que je veux, ce que je souhaite, c'est travailler moins pour gagner plus. Et comme moi, ils sont des milliers. Vous ne voulez pas le voir? La seule chose qui vous importe, c'est la théorie. C'est pour ça que vous vous embobinez principalement les señoritos. Mais nous, les anarchistes, nous avons les masses dont vous vous gargarisez tant de notre côté. Voyons un peu, nous allons compter, pas pour savoir le nombre que vous connaissez et dont vous vous fichez. Non, nous allons compter ceux qui sont communistes et ceux qui sont anarchistes. Nous allons bien voir, jeune homme, qui représente le prolétariat. etc., etc. Voilà, donc deux petits extraits comme ça pour faire entendre un peu la voix de Max Aube. Et voilà, je pense que on peut passer à la lecture à deux voix. Juste une petite précision, donc on a amené les livres là, on a fait des paquets cadeaux. Hein, donc n'hésitez pas à faire plaisir autour de vous. On fait les paquets à 60 euros, 10 euros pièce le livre. Voilà, vous pouvez les partager, sachant qu'effectivement, il y a une chronologie, mais elle n'est pas très importante. Hein, donc on peut vraiment lire un, l'autre après. On n'est pas obligé d'aller de 1 à 6 dans l'ordre. Merci pour la...
Pour l'eau.
Pour l'eau. Donc là, le texte qu'on a choisi est aussi du Campo Abierto. Oui, juste un mot sur Campo. Je pense que Max Aube a choisi ce terme-là parce que Campo en espagnol, c'est polysémique et donc ça veut dire à la fois un camp de rétention, camp d'internement, le champ au sens agricole du terme, le terrain vague, et el campo, c'est la campagne aussi, quoi. En Espagne, au champ, c'est al campo, quoi, par exemple, vous voyez. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a choisi ce terme-là. Donc, on va vous donner un extrait du livre 2. Max Aube, vous l'aurez certainement compris, il a été assez proche de donc, les milieux intellectuels des années 20, 30 et suivants, et en particulier, c'est une période pour le surréalisme. Il était proche de Buñuel, hein, donc forcément, il avait un goût aussi pour le surréalisme. Et un des moyens qu'a le surréalisme de s'exprimer, c'est souvent sous forme de liste. Donc, dans le Sopilote qu'on avait publié, donc il y a un conte, une nouvelle qui recense liste. Tous les villes du Mexique qui commencent par San Fernando. Donc il y en a, je ne sais plus, 372, on va dire. Enfin, il y en a 5-6 pages dans le livre. Joueur comme il est, Max Aube, il en a mis un qui n'existe pas. Bon, on n'a pas été chercher lequel c'était. Mais voilà, il faut voir aussi qu'il a fait pas mal de canulars littéraires et qui sont vraiment... Il s'est créé des personnages comme ça. Et c'est tout à fait dans le fil droit de ce qu'on disait, effectivement, pour son goût, pour créer les personnages. Et là, il nous fait sur une dizaine de pages la liste des garçons coiffeurs de Madrid. Voilà. Mais vous allez voir, c'est vachement drôle quand même. Alors, ils sont près de 300 hommes du métier, entre patrons, garçons coiffeurs et apprentis. Il en manque une centaine. Les uns ont été sélectionnés lors de commissions, d'autres sont en permanence à la Maison du Peuple. 8 d'entre eux attendent dans l'antichambre du ministère de la Guerre. Certains se sont endormis, les autres arrivent peu à peu. Ils sont de tout âge, entre 15 et 68 ans, l'âge que déclare Narciso Pérez et M. Ramon, le doyen et de tout poil. Jacinto Boniface commence à faire l'appel perché sur un banc de velours rouge. D'un salon de coiffure de la Puerta del Sol répondent présents.
Juan Pajares, de Argan Masilla, 24 ans, célibataire et portant beau. Il est brun et a le visage couvert d'acné.
Juan Miguel González de Madrid, 36 ans, marié et père de 3 enfants. Il a des aigreurs d'estomac qu'il supporte et un ennemi personnel, le bicarbonate.
Adrián Costa de Calaceite, 50 ans, tout rond, dont il a peu profité. Veuf 2 fois et père de 2 enfants. L'un d'eux est là, Miguel, garçon coiffeur dans un salon de la rue Montera. Ils ne se parlaient pas depuis 3 ans, après l'histoire avec la Manuela, mais les circonstances ont prévalu. Du salon de coiffure de la rue Peligros sont présents
Santiago Pérez de Guadalajara, toujours aussi mignon.
Fernando Sánchez de Logroño, avec sa constipation qui ne le quitte pas.
Evaristo Alonso de Getafe, garçon muet qui pense à sa famille, qui n'a pas voulu quitter le village. Et Marcos Pérez de Escalona, au long favori et au poil de barbe serré.
D'un salon de la rue Fuencarral est présent le maître Gabriel Prado, membre de l'Union de Cartagena, avec ses 60 ans sur le dos, boiteux à la suite d'un coup de corne, avec son franc-parler et son caractère de chien, surtout le lundi matin, car le dimanche, il va à Leganés voir sa fille qui est enfermée dans un asile de fous. Son présent, ses garçons coiffeurs.
Manuel Torres, de Saragosse, dont un frère plus jeune a été fusillé.
Ignacio Ibáñez, de Oliva, avec sa mine d'arabe et son cure-dent entre les lèvres.
Enrique Azuara, de Madrid, et Jorge Carranza, de Gergal, qui se fait du mouron à cause de sa femme et du boulanger du 6. D'un salon de la place Callao sont présents.
Benjamin Ortega, de Santa Olaya, qui danse de joie parce que cette fois, c'est pour de bon.
Luis Selba, de Carcagente, avec son furoncle qui s'est mis dans un endroit bien particulier, ce qu'il raconte à tout le monde.
José Balcells, de Camprodon.
Antonio Guzman, de Ségovie, à la barbe clairsemée qui se fait du souci à cause d'un oncle curé qui loge chez lui. Du local d'un barbier de la rue Ancha sont présents.
Francisco Reyes, de Badajoz, imberbe et bon cantaor, qui regrette de n'avoir pas pris sa guitare.
Ricardo Núñez, de Caldalso de los Vidrios, qui est mince, grand et borgne.
Arturo Sainz, de Albacete, qui jure à tort et à travers à cause de quelques engelures.
Santiago Arellano, de Alba de Torres, toujours à moitié endormi, s'il ne l'est pas totalement.
José Acevedo, de Vicaira, qui veut devenir acteur et qui est enchanté du lieu de réunion. D'un salon de la rue Hortaleza sont présents.
Félix Amador, de Cadiz, qui a laissé sa femme avec de la fièvre.
Joaquín Rodríguez, de Utrera, et Faustino Romero, de Madrid, qui sont ennemis. L'un est supporter du Madrid, l'autre de l'Athletic. D'un autre salon de la rue Hortaleza sont présents.
Juan et José Pérez, de Madrid, frères, qui s'entendent si bien qu'ils préfèrent ne pas se marier. On ne sait jamais.
Enrique Salazar, de Puebla de Sanabria, gros et paisible, père prolifique, théosophe, végétarien et partisan de la paix universelle, qui est l'Église parce qu'elle a inventé le purgatoire et l'enfer. On le surnomme Limbe, tout le rend heureux. D'un salon situé sur la Glorieta de Quevedo sont présents aussi
Antonio Iturbe, de Bermeo, homme carré à la barbe rousse et toujours affamé.
José Ruiz, de Viana, dont la femme est sur le point d'accoucher. Mais il ne s'en fait pas trop, c'est la sixième fois.
Alfonso González, de Torre Laguna, mort de sommeil car cela fait 3 jours qu'il ne ferme pas l'œil, allant à droite et à gauche, se mêlant de tout.
Alberto Garrido, de Sueca, d'un salon de la rue del Prado.
Néstor Ramirez, de Alcalá de Guadaira, qui souffre de douleurs d'estomac.
Luis Palma, Nicasio Ortega et Valentín García, tous trois de Séville. Tristes tous les trois. La famille au grand complet de Nicasio a été fusillée. Ils parlent par monosyllabes, mais avec insolence. D'un salon de la rue Cuatro Calles, ils y sont tous.
José Ortigosa, de Astorga. Francisco Canto, de Liria. Alejandro et José Perea, cousin germain. De Binaros, champion de mousse. Cayetano Olivares, Tarsilo Vergara, Juan Fernandez de Madrid. Ils se retrouvent autour de passions communes, les taureaux, le chamelo et le vin rouge. De deux salons de la rue Fuencarral sont présents.
Epifanio Salcedo et Valeriano Martinez de Chambéry, conquistador en herbe, en compétition.
Enrique Ruiz de Pamplune, goulu et bavard.
José Jaramillo, Felipe López de Piedrabuena, dans la province de Ciudad Real, selon les mauvaises langues, marié à 2 sœurs et vivant heureux.
Federico Romero, père de Faustino qui travaille dans la rue Hortaleza. De la rue Mayor, il y a
Fernando Escudero, si petit qu'il est parfois obligé de se hisser sur la pointe des pieds pour raser un client.
Tomás Galvez, également de Madrid, albinos et mécontent de l'être. De la Grande Villa, il y a
Luis González, un bel élégant de Llerena.
José González, philatéliste de Torre Don Jimeno.
Eduardo Montero, de Morón de la Frontera, naturaliste.
Luis Duran, de Barcelone, grand amateur d'opéra et de deuxième soprano.
Rafael Valero, de Vélez Rubio, qui étudie la nuit et qui rêve de devenir comptable. De la rue Atocha, il y a
Agustín López, avec ses cheveux blancs et sa célèbre moustache, ainsi que ses garçons coiffeurs au grand complet.
Antonio Guzmán, de Las Combroneras, novillero peu chanceux.
Prudencio Gómez, de Las Inrurias, avant-droit remplaçant de l'équipe de son quartier.
Balbino Méndez, de Chambéry, secrétaire administratif auprès du syndicat.
Ramiro Inorosa, de Las Bistillas, agent fédéral plein d'allants.
Javier García, un boiteux à mauvais caractère, de Cuatro Caminos. Avec eux, il y a aussi
Carlos de la Peña, de Lavapiés,
qui n'a rien à voir avec le noble métier de barbier, mais qui est un si bon ami de la maison qu'ils l'ont amené avec eux. De la rue del Arenal, il y a...
Carlos Castillo, de Belmonte, aux cheveux très crépus.
Luis Carmona, de Consuegra, qui préfère les canaris aux humains.
Sébastien Carrasco, de Ségovie, qui ne fera pas carrière, car il la serre plus qu'il ne coupe.
Juan José Santander, de Madrid.
Eduardo Zapater, de Valence.
Epifanio Ruiz, de Avila, qui savent à quoi ils s'exposent. Ils ont fait de la prison entre 1934 et 1936.
Juan Duran, de Lérida, avec un accent que 20 années à Madrid n'ont pas réussi à éroder, qui travaille dans un autre salon de la Puerta del Sol. L'appel se poursuit pour ce même quartier.
José Fernandez, de Santander, vieil aigriard tout sec aux cheveux teints.
Ramon Guillén, de Burgos, ravi de ne pas avoir à supporter sa belle-mère durant quelques nuits.
Salvador Gomez, de Naval Moral de La Mata, et Eusabio Mora, de la place de la Cebada, bien attifé, l'air canaille. D'un autre salon de la rue, Maison de Paredes sont présents.
Rafael Ortega, rien de moins, et Joaquín Soler, tous deux de Mequinensa, des beaux-frères bons chanteurs de Jotas. Et d'un salon de la rue Cava Baja, il y a...
Evaristo Pereda, né dans cette même rue, deux portes plus bas, plus bellâtre qu'une pièce de monnaie. Et son père, fossoyeur au cimetière de l'Est, qui a tenu à l'accompagner.
Ils sont avec leur apprenti, Gabriel Herrera, de la Fuente del Berro, qui a des oreilles énormes et une bouche pas moins grande. D'un salon de coiffure tout neuf, situé dans la rue del Barquillo, qui vient d'être inauguré.
C'est le patron, Rusto Ruiz, de Burgo de Osma, qui répond. Il y a mis ses économies et l'héritage d'un oncle qui a été bénéficié à Logroño. Puis c'est au tour de ses employés.
José Ibarra, de Majorque, et Fernando Rueda, de Isnajar.
Fabien La Peña, le célèbre spécialiste en postiche de la rue del Principe, avec ses deux fils, Julian et Jesús.
Carlos Díaz, le fabricant de petits filets, malheureux en amour et heureux en jeu. La loterie lui a permis ce luxe de devenir son propre patron, mais il continue d'appartenir à l'Ujete.
José Tardienta, spécialiste en bandoline et fixateur, avec son second, Guillermo Gomez, de Cangas de Tineo, à moitié sourd, mais à la voix tonitruante.
Victor Marco, spécialiste en bigoudi, qui habite à la Prosperidad.
Marcelo Salazar et Raúl Lezama, coiffeurs pour dames, travaillant dans un salon élégant de la rue del Carmen. Leur présence a fait du remous, car ils ne sont pas un exemple de virilité. Mais il semble que le courage n'a rien à voir là-dedans.
Ernesto Argumedo, de Mieres, et Venceslav González, qui habitent la même ville.
Aurelio Pérez, de Alcantarilla, avec un gros nez qui a la couleur du breuvage qu'il préfère, et dont il ne se prive pas, malgré la présence de sa femme, qui ne le lâche pas d'une semelle. Pas même là. Elle s'appelle Paloma, la colombe. Preuve que le nom ne fait pas la chose. Mais avec le bon sens qui le caractérise, Aurelio a coutume de lui affubler le délicat surnom de Dame Pie.
Felipe Carces, de Naval Moral, de La Mata, accompagné de Tomás Cordova, de Gustavo Ortiz, tous deux de Palencia. Gustavo est de Ventas de Baños. Il rase dans le salon Pacifico.
Il y a là Felipe Garcia et Mauricio Sigüenza qui rasent d'élégants clients de la rue Serrano.
Fernando Villatoro, de Madrid, veuf et phtisique, qui termine silencieusement sa vie dans une mansarde de la Ribera de Curtidores, lisant à ses heures perdues, qui sont nombreuses, Bakounid et Max Nordo.
Agustín Carnicero, de Lierganes, bon chasseur, mais ramenant peu de gibier.
Carlos López, Carlos Noriega, tous deux de Alcalá de Henares, qui prêtent leur service dans un salon de coiffure de la rue Preciados, avec Narciso Campos, végétarien et théosophe, inventeur d'une nouvelle manière de sécher les cheveux.
Jaime Valencia, de Ciudad Rodrigo, Francisco Alpuente et Abilio Cucho, tous deux madrilènes, œuvrant dans un établissement économique du Rastro, la bassine toujours prête. Alpuente a des velléités de guérisseur. On trouve encore des sangsues dans l'arrière-boutique qui lui sert de chambre.
Ramon López, avec sa mèche filandreuse, poivricelle, de Valladolid, doyen de la profession, accompagné de son neveu, très porté sur la vengeance.
Carlos Prados, de Malaga, le roi des ajouts.
Juan Sostenes, chauve et fier de l'être depuis l'âge de 20 ans, avec son frère José et son neveu Vicente, les trois originaires de Ejea de los Caballeros, dont ils n'ont aucun souvenir, mais qu'ils portent dans leur cœur.
Alvaro Fernandez de Torre la Vega, avec son front chaussé, qui ne vit que pour sa mère impotente et pour sa collection de timbres.
Ignacio Ulloa de Alsasua et José Peleaes de Torrejón de Ardoz, qui prêtent leur précieux service dans un local de la rue Arlabal.
Enrique Casaonda de Madrid, Federico Lacara,
Manuel Hoyos, employé bien pomponné d'un élégant salon de coiffure de l'avenue Conde de Peñalver, avec la manucure de l'établissement en bleu de travail. Âgée de 20 ans, elle s'appelle Carmen Beltram. Elle est originaire de l'Arganzuela, peut-être pas aussi jolie qu'elle le croit, mais agréable et toujours de bonne composition.
Gregorio Galindo, fabricant d'un assouplissant de son invention, dont tout le monde se méfie, malgré le fait qu'il dise l'utiliser depuis des années. Originaire de la Inclusa, il est coiffeur par passion.
Comme Thomas Exposito, qui avec Hipólito Méndez rase dans le quartier de Cuatro Caminos. Cycliste endiablé, une fois il s'était enhardi à participer à la Vuelta de Catalunya.
De la rue Carretas, il y a Arturo Guerrico, originaire du Nord, peu bavard, surtout pour ce qu'il concerne, travaille aux côtés de Rafael Argullo, des Reus, peintre du dimanche, à l'insu de tous, et de Luis Enriquez, de Colmenar Viejo.
Il y a ceux de la Ronda de Toledo, Luis Núñez, Ramón Cordero, Santiago Soria, Carlos Milán, Vicente Santos, Eusebio Álvarez, Alfonso Mayo, Julio Blanco, qui à 16 heures fait des lectures, Carlos Portillo, Manuel Pozzo, Gabriel García, Alfredo Olide, Jacinto Rosales.
Il y a aussi ceux qui travaillent à domicile. Jacinto Botella, José Vega, violoniste la nuit, Alberto Viento, Hermógenes Zurbano, Blas Jordán, Carlos Castro, Doroteo Cortés, Fermín Lagasca, Manuel Martínez, Silvio Vizcaíno, qui bégaye, Simón Varela, Praxedes Terres, Balbino Pérez, Maximo García, Quintín Saavedra, champion de poids léger amateur en 1919, Sabino Torres, José Castillo, Mariano Assin, qui parle français, Vicente Tortosa, José Fuentes et son frère Antonio, José de la Casa, Trifón Exposito, Eusebio Rojas, Ramón Frutos, Epifanio Jiménez, Matías Haro, Francisco Teruel, bouquiniste à 16 heures et auteur de zarzuelas, Eulogio Salcedo, Servando García, marin devenu coiffeur à cause d'un amour de jeunesse, Ismael Bustamente, Casto Revilla, Prudencio de la Mora, Sabino Rodríguez, Valeriano Monzón, Gil López, Casimiro Paniagua, Bernabé Escotado, orateur mis à l'écart, Elias Pérez, Crisanto Ramírez, Ubaldo Aguilera.
Ils sont presque tous originaires de Madrid et des bas quartiers, qu'ils n'ont pas l'intention de quitter, par rejet du monde.
Dans l'angle le plus sombre sont réunis les apprentis et certains tireurs de chaussures, imberbes et pour la plupart originaires de la capitale.
Manuel Orellana, Emilio Pidal, Marcelino Picavea, Valeriano Posada, Hilario de la Fuente, José María Real, Saturnino Bajaras, Antonio Rosado, Tarsilo Arenal, José Junco, Abilio Barrios, Vicente Marina, Antonio Alexandre.
Les uns veulent devenir torero, d'autres footballeurs. L'un veut être ingénieur, l'autre avocat.
Pidal et Pacavea sont de Saint-Sébastien. Ils travaillent dans la maison d'un compatriote, Cayetano Goyeneche, un vrai monarchiste qui avait été le coiffeur de l'infant Don Alfonso, qui a disparu à la première occasion. C'est le syndicat qui a pris possession de son établissement de la rue Sevilla. Voilà. On a fait quelques coupes quand même. Pas des coupes de cheveux, mais...